Comme tout bon locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Cosmétiques, produits d'entretien, ameublement ou décoration, en inspectant le contenu de nos placards, de la salle de bain à la cuisine, difficile de trouver un flacon, un vaporisateur ou un tube exempt d'un certain nombre de substances nocives. Dentifrice, nettoyant pour sanitaire ou confiserie, couche pour bébé ou protection périodique. Dans tous les rayons des grandes surfaces, mais aussi des pharmacies et des magasins de bricolage, on retrouve ces produits que nous employons chez nous. Difficile de décrypter toutes les étiquettes, impossible encore lorsque l'on n'est pas spécialiste de reconnaître et d'identifier les persulfates, les butylatèdes, triclosan ou un autre, je me lance, méthylchloroisothiazolinone, j'ai réussi d'un, c'est bien un seul mot, hein, perturbateur endocrinien, allergène, irritant, toxique pour le sang ou le foie, cancérogène possible. La présence de ces composés indésirables est donc susceptible d'avoir un impact pour la santé et certaines populations, hein, comme les bébés, les adolescentes, les femmes enceintes, présentent une vulnérabilité accrue. Précaution, évaluation des risques, interdiction de certaines substances. Des médecins et chercheurs, les agences sanitaires, les associations de consommateurs se penchent régulièrement sur la question pour pointer, pour lister, pour alerter. Les instances publiques légifèrent, mais un rythme qui témoigne souvent de leur tiraillement entre les impératifs de santé et la pression des industriels. L'impact des produits chimiques pour la santé, des substances présentes dans les produits tous les jours. Pour en parler en studio avec nous, André Cicolella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chimiste et toxicologue, président du réseau Environnement Santé. Vous enseignez à l'École des Affaires Internationales de Sciences Po Paris. Et l'un de vos derniers ouvrages s'intitule « Cancer de la prostate et reproduction masculine, les perturbateurs endocriniens en accusation » aux éditions Les Petits Matins. Également avec nous, Christelle Pangrazi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe des hors-séries du magazine 60 millions de consommateurs. Et cette problématique, eh bien, elle est internationale, comme nous l'entendrons tout à l'heure avec le professeur Béatrice Sangaré-Tigori, pharmacienne toxicologue, professeur de toxicologie à l'université d'Abidjan, Côte d'Ivoire. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Maquillage, désodorisant et même les couches pour bébés, difficile de s'y retrouver, hein, comme je le disais il y a quelques instants, André Cicolella. Est-ce que dire aujourd'hui que certains produits de notre quotidien sont dangereux pour la santé, c'est faire preuve de catastrophisme?
Non, c'est l'inverse. Ne pas en parler, c'est ça qui conduit effectivement à un discours anxiogène. Il faut s'attaquer à ce problème parce que les connaissances scientifiques ont évolué. Vous avez évoqué les perturbateurs endocriniens, ça a été défini il y a 30 ans à peu près. Voilà, donc il faut en tirer les conséquences aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait en tant que réseau environnement santé quand nous avons obtenu l'interdiction des biberons au bisphénol A. C'est aujourd'hui une interdiction en Europe, mais le monde entier continue d'utiliser
alors,
ces biberons.
Alors, biberons bisphénol A, pour qu'on le sache bien, ce sont des biberons en plastique,
c'est
tout simplement.
C'est du biberon en plastique, voilà. Le plastique, c'est le polycarbonate, qui est du bisphénol pur. Alors, le bisphénol A, c'est l'un des perturbateurs endocriniens. Une femme enceinte qui est exposée au bisphénol A, ça induit chez l'enfant, chez le futur adulte, à la fois toutes les grandes maladies, cancer du sein, cancer de la prostate, obésité, diabète, troubles de la reproduction, infertilité.
D'autant plus quand c'est
du comportement.
Ces types de contenants étaient chauffés parce que bien sûr pour un biberon on fait chauffer le biberon.
On fait chauffer, on le passe au micro-ondes et c'est à ce moment-là que la matière plastique se décompose et régulièrement le nourrisson reçoit effectivement une dose. Alors c'est une hormone de synthèse. Ça a failli devenir un médicament. Vous voyez, donc on peut dire qu'on donne une hormone de synthèse 6 fois par jour au petit nourrisson. Donc vous voyez, c'est une situation tout à fait anormale.
Donc on parle de substances et d'éléments bien différents, André Cicolella. Pour bien comprendre, il y a plusieurs classes, on va dire, notamment ces perturbateurs endocriniens. Vous avez cité les biberons, il y a d'autres produits où l'on retrouve ces perturbateurs.
Oui, on peut citer les phtalates par exemple, autre grande famille. Alors les phtalates, on les trouve dans les plastiques, c'est le plastifiant, c'est ce qui rend les plastiques souples. D'où une contamination de l'alimentation, mais on va les trouver dans les cosmétiques, notamment, parce que c'est le fixateur des parfums. Donc on va les trouver effectivement... Dans, dans l'alimentation à partir de ça. Dans l'eau, on va les trouver effectivement dans les cires. Enfin voilà. Et vous avez d'autres grandes familles, les perfluorés, même chose. Alors eux, on va les trouver principalement dans les ustensiles de cuisine, vous savez, les revêtements anti-adhésifs. Donc quand on a la grande enquête de Santé publique France en France, qui s'appelle ELF, qui a un suivi de plusieurs milliers de femmes enceintes, et quand on fait des dosages biologiques, on s'aperçoit que c'est une contamination à 100%.
Alors, il y a aussi des allergènes qui sont rajoutés dans certains produits, là encore comme les parfums. Justement, des réactions aussi nombreuses que variées sur l'organisme, André Tchicolet, là, hein, c'est difficile parce qu'on a un petit peu l'impression de s'éparpiller, mais le fond, c'est bien de comprendre que quand on croit utiliser un produit a priori inoffensif, eh bien, il ne l'est pas tant que cela.
Voilà, donc il y a des solutions de bon sens qui s'imposent. Vous voyez, bannir l'usage des plastiques. Alors ça, c'est vraiment le grand principe. Tous les plastiques ne sont pas au même niveau, mais faute d'avoir une connaissance précise de la nature du plastique, et les codes de recyclage, mais même ces codes sont pas tout à fait, sont tellement, tellement vagues qu'on ne comprend pas les mélanges de plastique, vous voyez.
Mais ça veut dire quand on conserve, par exemple, faut être très concret, André Tchicolet, là, parce que là, les personnes qui nous écoutent, ont envie de savoir comment faire. Quand on veut, par exemple, Christelle Pangrazi, vous me faites signe, donc je vous donne tout de suite la parole, bien sûr, conserver des aliments, on a des boîtes en plastique, qu'est-ce que ça veut dire? On s'en débarrasse?
Alors on peut choisir les boîtes en verre, hein. Pardon. Il y a les boîtes en Pyrex, en verre, ça fonctionne très bien. Ce que je voulais juste dire par rapport au plastique, vous disiez les bannir. Alors certes, effectivement, mais parfois le plastique est complètement caché. C'est-à-dire que nous, on a fait une étude et on a étudié notamment les huiles d'olive. Et les huiles d'olive bio que nous avons étudiées étaient, pour certaines d'entre elles, plus contaminées en phtalates que les huiles bio conventionnelles. Et en fait, on s'est aperçu, donc comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement le phtalate, hein, est perturbateur endocrinien avec tous les méfaits qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, c'est lié à une origine. C'était lié à une origine géographique de ces huiles bio, qui était la Tunisie. Et on pense aujourd'hui que les cuves dans lesquelles ces huiles ont circulé étaient des cuves en plastique avec des tuyaux en plastique. C'est une supposition. Mais reste qu'aujourd'hui, c'est très difficile, en fait, parce que le plastique est partout. Donc, vous disiez l'enlever tant que faire se peut, mais malgré tout, il est caché parfois.
André Tchicolet, là.
Quand on transforme, il faut utiliser plutôt de l'inox. Voilà.
Tout à fait.
C'est changer aussi certaines pratiques, mais c'est pas toujours évident. Quand on ouvre le placard et qu'on a tous les stocks de contenants en plastique, de dire du jour au lendemain, il va falloir tout renouveler.
Et pourtant, c'est une nécessité. Il y a urgence, parce que, vous comprenez bien, c'est de l'exposition au début de la grossesse. C'est pas même sur l'ensemble de la grossesse, au début, sur les premières semaines. C'est là où tout se joue pour l'enfant, pour l'adulte et pour ses descendants. C'est un mélange. Alors, en même temps, la bonne nouvelle, parce que vous allez me dire, c'est un peu anxiogène ce que je vous dis. Non, c'est l'inverse. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut éliminer toutes ces grandes maladies en agissant simplement.
Voilà. Tout en prévention.
Toutes ces grandes maladies, vous voyez, les parents sont confrontés à l'hyperactivité de l'enfant, à l'asthme par exemple, aux troubles du langage qui sont en augmentation. Eh bien, tout ça est généré par ces perturbateurs endocriniens.
Christelle Pangrazi.
Alors, c'est aussi à l'industriel de faire un effort. Vous disiez changer le plastique au profit de l'inox. Certes, hein, tout ça, c'est des coûts pour l'industriel. Alors, c'est des coûts qui, au final, seront bénéfiques pour notre santé. Mais effectivement, c'est le premier pas, c'est un pas de l'industriel à faire pour notre santé et notre survie.
D'autant plus, André Tchicolet, là, excusez-moi de vous interrompre, les industriels, pour leur réserve, pour leur réponse, disent, eh bien, certaines réactions, elles ne sont pas si évidentes que ça. Est-ce qu'il y a un problème d'évaluation ou est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment les études?
Oui, on a énormément d'études. Oui, je vous parle des phtalates parce qu'on a lancé une campagne qui a le soutien des collectivités locales en France qui s'appelle Ville et Territoire sans perturbateurs endocriniens. On a trois régions. Un Français sur trois dépend d'une collectivité locale qui a signé la charte. Les grandes villes, Paris, Strasbourg, signent la charte. Donc, vous voyez tout ça. Et on a fait une opération zéro phtalate qui consiste à prélever des mèches de cheveux des élus et à leur donner leur contamination en phtalate. Et bien, tous les élus sont contaminés. Tous. Mais et donc vous voyez, les gens sont surpris parce que comment je me contamine? Et donc vous voyez, c'est toute cette, et on peut montrer qu'on peut diminuer de façon considérable la contamination.
Christelle Pangrazi, hein, votre magazine qui est édité par l'Institut national de la consommation teste, fouille, déchiffre les étiquettes, hein, souvent, je disais tout à l'heure, imprimées en caractères minuscules. On a d'ailleurs l'impression que plus c'est compliqué, plus c'est cryptique. Est-ce qu'aujourd'hui les consommateurs s'intéressent vraiment? Est-ce qu'ils se sont vraiment emparés de ces questions?
Oui, je crois de plus en plus. Hein. Aujourd'hui, on a énormément de courriers à la rédaction où les gens nous demandent est-ce que ce produit est bien pour nous. Est-ce que voilà. Donc c'est pour ça qu'on est sur des listes de produits. Concernant les perturbateurs endocriniens, nous on a par exemple pu constater que les laits et les œufs bio étaient plus contaminés en PCB et dioxines que les laits et les œufs conventionnels. Les PCB et les dioxines sont des molécules issues des usines qui sont cancérogènes et perturbateurs endocriniens, donc les deux.
Veut dire que c'est la proximité de l'exploitation agricole qui a contaminé
Alors, vous avez tout à fait raison, effectivement. Donc, en fait, en bio, les vaches et les poules ont la chance de sortir, contrairement au conventionnel. Donc, elles vont pâturer gaiement.
Mais elles sont polluées en plein air.
Exactement. Elles sont polluées par les sols qu'elles broutent ou qu'elles picorent. De fait, parce qu'aujourd'hui, même en bio, en fait, il y a un vrai problème sur la réglementation pour notre alimentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance minimale entre un champ bio et une usine. Et ça signifie aussi que le champ n'est pas testé par l'agriculteur avant qu'il s'y installe. Donc il y a un problème, vous le disiez tout à l'heure, un problème réglementaire sur ces molécules qui peuvent être nocives, voire toxiques pour notre santé, et qui sont pas prises en compte, même sur une agriculture qui se veut au final vertueuse, en fait, et meilleure pour notre santé. Et on s'aperçoit là qu'elle ne l'est pas tant que ça.
Et même quand on s'informe, même quand on lit l'étiquette, ce qu'on apprend en préparant justement cette émission, c'est que, y compris des indications sans parabènes hypoallergéniques, des fois c'est totalement fallacieux, c'est faux.
Alors, aujourd'hui, on a remplacé... Alors, c'est compliqué parce que généralement, quand l'industriel écrit sans parabènes, il est tenu de ne pas mettre de parabènes. Sauf que aujourd'hui, dans les cosmétiques, par exemple, ou dans les produits d'entretien, on a remplacé certains conservateurs sur lesquels on a tiré à plein feu sur les parabènes. On les a remplacés par d'autres qui sont, tout à l'heure, vous aviez du mal à le prononcer, par les isothiazolinones.
Ouais, vous avez l'habitude.
Qui sont des conservateurs qui sont extrêmement nocifs également, qui sont extrêmement allergisants, sensibilisants. Et on sait aujourd'hui que ces produits, ces isothiazolinones, on les met partout. Donc on les met dans nos cosmétiques, on les met dans les produits d'entretien, et on a une recrudescence des allergies liées à ces produits, en fait, liées à ces substances qu'on intègre partout pour conserver. Donc et qui ont des effets secondaires très très nocifs. Tout à l'heure, vous disiez des catégories à risque. Vous parliez des catégories à risque par rapport à ces ingrédients, ces substances. Donc effectivement, il y a les femmes enceintes et les enfants, mais pensons aussi au sujet aux personnes âgées qui sont plus sensibles, aux sujets immunodéprimés, aux personnes qui ont des maladies chroniques. Immunitaires chroniques, des cancers. Voilà, c'est des gens qui sont extrêmement sensibles à ces substances. Mais j'ai envie de dire. Enfin, je le dis parce que, en fait, à chaque fois qu'on sort quelque chose, les gens tombent des nues. On n'est pas assez au courant. En fait, les gens ne sont pas suffisamment au courant. Quand ils achètent un Ajax, un Carolin, ils pensent bien faire.
Ce sont des marques en France qui sont utilisées de produits ménagers en France.
Voilà, des Ajax, des Carolin, tout ce que vous achetez aujourd'hui dans le commerce en France pour nettoyer votre maison en pensant la dépolluer et finalement respirer un air sain et pur, vous n'allez que la polluer davantage. Aujourd'hui, on sait que l'air de nos maisons est 8 fois plus pollué que l'air extérieur, 8 fois plus, et ces produits d'entretien et ménagers qu'on utilise au quotidien joue un grand rôle dans cette pollution. De la même manière que les meubles, tout à l'heure vous le disiez, qu'on achète les dégagements de formaldéhyde, etc., polluent nos intérieurs d'une manière très très
forte. Alors, des molécules toxiques à éviter, j'ai quand même cette question qui peut sembler naïve, André Cicolella. Pourquoi, si c'est si mauvais, les industriels n'y renoncent-ils pas ?
Alors ça se fait, en fait. Certains ont compris, effectivement, qu'ils ont tout intérêt, d'ailleurs économiquement, à remplacer. Et les produits de remplacement existent très souvent. Vous voyez, je réagis par rapport à ce que vous dites sur la pollution de l'environnement intérieur. Une grande source de contamination de l'environnement intérieur, ce sont les sols en PVC. Les sols en PVC, c'est 20 à 40% d'un phtalate qui s'appelle le DEHP, qui est classé cancérogène, mutagène, reprotoxique, cancérogène, reprotoxique et perturbateur endocrinien. Il est interdit dans pas mal d'usages, néanmoins, il a été utilisé, et donc personne ne s'est soucié vraiment d'aller chercher tous les sols en PVC et de les éliminer. Donc il y a des produits de remplacement qui existent. Voilà. Donc, et là, c'est une source de contamination. On a une grande étude suédoise qui est sortie il y a quelque temps, sur 3200 enfants suivis pendant 10 ans, il y a un lien entre le sol en PVC de la chambre de l'enfant et asthme de l'enfant. Sol en PVC de la chambre des parents et asthme de l'enfant. Donc à partir de là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, parce que l'asthme de l'enfant, en Europe, c'est la première maladie de l'enfant entre 5 et 9 ans. Et au niveau mondial, c'est en augmentation dans tous les pays. Voilà une façon simple de faire régresser cette épidémie en éliminant ces sols.
Alors renoncer à certains produits et passer même à la fabrication maison pour certains. avec une illustration dans une épicerie du 19e arrondissement de Paris. Ce commerce organise des ateliers de fabrication de cosmétiques et de produits répulsifs. Reportage de Fabrice Vuimot.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la crème solaire. Je vous invite à mettre vos lunettes et vos gants. Si vous avez déjà des lunettes, vous n'êtes pas obligé de remettre des lunettes. Okay. Alors, il n'y a pas forcément assez de casseroles pour tout le monde. Du coup, s'il y en a qui sont venus à deux, je vais vous la partager. Bon. Il y a des gants pour tout le monde.
Ah,
normalement.
Bon, d'accord.
Alors, je m'appelle Iris et je suis la cofondatrice de l'épicerie Kilogramme.
Comment vous êtes venue, du coup, cette idée d'organiser des ateliers pour fabriquer des produits soi-même?
Au départ, c'est venu, en fait, d'un engagement que j'ai eu au sein d'une association qui s'appelle Génération Cobaye, qui est une association qui sensibilise les jeunes au sujet de santé et environnement, au sein duquel j'ai participé au développement de ce type d'atelier. À l'époque, en direction des jeunes, et maintenant, je fais ça vers une cible qui est plus la cible de l'épicerie, donc on est plus sur une cible 30, 35, 50 ans. Est-ce que tu peux éteindre ta petite casserole parce qu'elle était allumée? Regarde, tu la mets sur zéro. Ouais. Côté huile de Carandja, vous allez mettre 4,2 grammes d'huile. Je vais vous donner une petite pipette, sinon ça va être vite. Voilà, là-bas, pour le beurre de karité, on veut mettre 10 grammes.
Je m'appelle Catherine, ça fait plusieurs fois que je fais ces ateliers avec Iris.
Et qu'est-ce qui vous donne envie de venir à ce type d'atelier de fabrication de produits?
En fait, je me suis lancée dans une démarche zéro déchet depuis plus de 2 ans et demi. Et quand on tire le zéro déchet, on tire aussi des produits de qualité, des produits non toxiques. Et c'est vrai qu'avec toutes les études qu'on voit sur les perturbateurs endocriniens ou tous les produits qui sont pas bons, j'ai eu envie d'aller vers des produits plus sains et donc des produits à faire soi-même. Et du coup, pour les produits cosmétiques, comme voilà, il y a un petit peu plus quand même de technique et qu'on les met sur la peau, je voulais aller faire voir des ateliers professionnels, encadrés pour savoir comment faire et quelles précautions faire. C'est quelque chose dont je suis consciente avec des gens là de la famille qui ont pu avoir des fois des cancers de la peau ou des cancers dont on peut se demander aussi d'où ils arrivent. Des personnes aussi qui ont de plus en plus d'allergies à des produits qui sont irritants. Donc c'est pour ça qu'il y a cette démarche de santé en faisant ces produits soi-même avec des ingrédients que l'on connaît.
Si jamais vous avez mis trop d'ingrédients, vous ne le remettez pas dans le... Vous pouvez le mettre dans le bol poubelle.
Bonsoir, comment vous appelez?
Léo.
Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait?
Oui, on est restés tous très concentrés sur ce qu'on a fait. Non, ça a été assez très instructif. C'est bien d'être entouré, d'avoir des avis divers, d'avoir un contact direct, parce que sur Internet, on trouve des recettes et on ne sait pas si on a raison de choisir ce qu'on choisit.
Est-ce que vous avez déjà subi des ennuis de santé dus à la consommation de produits industriels? Et est-ce que c'est cela qui vous aurait poussé à venir à cet atelier?
Je sais en tout cas que c'est vraiment une des motivations premières qui m'a amené vers ça. Où effectivement, on voit un peu tout ce qui entre dans la composition de produits, soit ménagers, soit cosmétiques. On se dit, c'est pas possible, quoi. Pour quelle raison est-ce qu'on a besoin vraiment de mettre tous ces produits là-dedans, quoi? J'ai un produit qui est constitué de 3-4 ingrédients. Moi, ça me suffit amplement, quoi. Et puis même, en fait, c'est très plaisant d'apprendre à faire. Je pense que c'est important, voilà, d'apprendre à faire.
Je vous envoie les recettes et normalement, on indique que ça se garde 3 mois, les deux.
Reportage de Fabrice Vuimot. Vous confirmez, Christelle Pangrazi, moins il y a d'ingrédients, plus c'est sûr?
Oui, alors nous, c'est ce qu'on conseille aussi, suite à notre étude là sur les produits ménagers. D'habitude, on part sur 3 catégories, vert, orange, rouge. Sur les produits ménagers, on a été obligé de rajouter une 4e catégorie qui était la catégorie noire, tellement on a vu un nombre d'ingrédients nocifs et toxiques pour la santé dans ces produits d'entretien. Donc nous, on a donné tout un tas de recettes à partir d'ingrédients qui dégagent évidemment moins de cove et moins nocifs pour la santé, en tout cas plus naturels, comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, le savon noir. Et on peut très très bien nettoyer chez soi sans tous ces produits du commerce, en tout cas industriels. Et une maison propre ne sent rien. En fait, ça sent pas le jasmin, ça sent pas la rose, ça sent ça sent pas le lilas, ça sent rien. Donc il faut arrêter avec cette idée. Et je voulais juste te dire, juste par rapport au naturel, il faut être très précautionneux, parce que aujourd'hui il y a la vogue des huiles essentielles. Alors peut-être que on peut en dire deux mots. Certaines huiles sont aujourd'hui suspectées très fortement d'être perturbateurs endocriniens, telles que la lavande ou le titri, et donc une grande méfiance par rapport à ces produits, aux huiles essentielles, et notamment par rapport aux mélanges qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Par exemple, on trouve Pranarome avec des mélanges de 35 huiles, 40 huiles. Une huile essentielle, c'est 200 molécules. Quand vous multipliez par le nombre d'huiles dans ces mélanges, vous vous retrouvez avec un nombre très important de molécules à gérer pour l'organisme, et donc le système immunitaire a du mal à savoir comment faire. Nous avons rencontré à Strasbourg le professeur Deblé, en fait, qui est un professeur qui est pneumologue, et qui nous a expliqué qu'aujourd'hui la première cause de consultation en pneumologie, quand il reçoit les gens, la première question qu'il pose aux gens, à savoir sur les allergies et les asthmes, c'est: est-ce que vous utilisez des mélanges d'huiles essentielles? Donc aujourd'hui il y a une telle vogue de ces mélanges que les gens en mettent partout, les utilisent partout, et au risque de développer des allergies, de développer une sensibilité à ces huiles. Donc par exemple vous avez la bonne idée d'utiliser du savon noir pour nettoyer chez vous plutôt qu'un carolin, évitez de rajouter des huiles essentielles derrière, ou des mélanges, ou de vaporiser ces mélanges à tout va dans les maisons. Nous on a fait des études sur les sprays, et on s'est aperçu que les taux de COV, c'est-à-dire de composés organiques volatiles qui émanaient de ces mélanges, étaient on était au bord de l'asphyxie, en fait. Un asthmatique ne tient pas après trois pulvérisations, en fait.
André Cicolella, je vous pose la question, chimiste toxicologue, est-ce que ces produits maison, c'est une bonne solution?
C'est ce que vous dites, il faut aller au plus simple, en fait. Et puis, il faut casser effectivement des représentations, cette odeur du propre, finalement, dans laquelle on est tous sensibles.
Surtout que
d'ailleurs,
L'histoire de l'odeur a beaucoup évolué avec les siècles. On va tout de suite prendre un auditeur en ligne, si vous le voulez bien.
RFI.
Cet auditeur que nous avions essayé d'avoir, hélas, on a perdu la liaison avec Yaoundé, avec le Cameroun. On va retenter notre chance, mais je me tourne vers un autre message qu'on a reçu. Là, c'est un message Facebook, donc c'est par écrit, on peut pas le perdre. Raphaël Amboujimaï, qui justement demande s'il y a des risques d'intoxication lors de l'usage de la soude caustique pour fabriquer des savons. Ça rentre dans la composition des savons? Quand on entend soude caustique,
c'est un toxique bien classique, mais là c'est la toxicité aiguë. Je veux dire, effectivement, si vous en mettez sur la peau, la soude va vous manger la peau, ça c'est clair. Mais l'effet à long terme n'est pas du tout avéré. Donc évidemment, il faut se protéger, mais avec des protections classiques, c'est-à-dire effectivement éviter de respirer.
Et puis porter des gants quand on prépare, de toute façon.
Voilà. Donc ventilation, et mais ça c'est assez simple. Mais ce qui est beaucoup plus pervers, c'est effectivement les substances que l'on ne sent pas, notre organisme n'est pas habitué à les gérer. Il n'est pas habitué, déjà, quand il les respire, il ne les voit pas. Quand on les mange, on ne les sent pas. Et quand il est dans l'organisme, il n'y arrive pas. Certains, il arrive à les évacuer, dans la journée, comme le bisphénol A ou les phtalates, mais vous avez des substances comme les perfluorés ou les polybromés qui restent dans l'organisme pendant des décennies.
Pollution insidieuse. On a retrouvé Donald à Yaoundé au Cameroun. On lui donne tout de suite la parole. Bonjour, Donald.
Bonjour.
Alors, on vous écoute, allez-y.
Oui, je suis fabricant de produits d'entretien au Cameroun.
Oui.
J'essaie dans la fabrication de ces produits depuis pratiquement un an déjà.
Oui.
J'ai eu un entretien hier avec une de vos auditrices, une de vos représentatives du plateau.
Oui.
Bon, en fait, ce que nous faisons au Cameroun, c'est la fabrication des produits pour nettoyage de la maison, des carreaux.
Oui.
Pour le lait. Et pour la lessive. Donc, les produits que nous utilisons sont particulièrement toxiques, car nous utilisons des substances telles que l'acide de synthèse, l'acide d'acone, le bicarbonate de soude, et ils sont vraiment très dangereux pour la santé à long terme. Donc, à cet effet, généralement, nous avons des mesures de précaution que nous adoptons avec le personnel pour essayer d'être à l'abri de ces dangers, bien qu'ils ne soient pas protecteurs pour nous à 100%.
Et par exemple, l'endroit où ils fabriquent ces produits, c'est un espace très ventilé?
Bon, nous travaillons dans un espace quasiment fermé.
Ah oui?
Avec une ouverture pour l'aération.
Une aération, il y a suffisamment d'aération ou c'est vraiment fermé? Parce qu'en plus, il y a la chaleur à Yaoundé avec ça.
Oui, mais nous essayons d'avoir le maximum d'aération possible. Et les salles dans lesquelles nous travaillons sont climatisées, en fait.
Et pour ce qui est justement de l'étiquetage, de l'information des consommateurs, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez sur les flacons, sur les bouteilles?
Bon, sur les flacons, déjà, nous mettons déjà la posologie pour l'utilisation du produit en question,
ouais,
pour éviter des dosages. Et nous mettons en garde également l'utilisateur sur les dangers qu'il encourt suite à l'inhalation de ces produits. Donc, nous recommandons généralement à l'utilisateur d'avoir des cache-nez et d'utiliser des gants parce que, généralement, lorsque nous utilisons ces produits, il peut arriver qu'il abîme la peau. Nous avons des éruptions cutanées, parfois. Mais lorsque le produit il est bien fabriqué, lorsque les dosages sont respectés, nous pouvons être à l'abri de ce genre d'incident, je veux dire. Donc,
Et dans la fabrication, il y a des règles particulières qui sont édictées par l'État camerounais. Il y a une législation pour protéger aussi bien les personnes qui travaillent à la fabrication que les utilisateurs?
Oui, effectivement. Donc, l'État camerounais recommande l'adoption des différentes mesures de sécurité pour déjà protéger le fabricant et protéger l'utilisateur. Donc, pour ce qui est du fabricant, car c'est la personne la plus exposée suite à la fabrication de ces produits. Déjà, nous avons les cache-nez que nous utilisons. Nous avons le port des gants. Nous avons les chemises longues manches, des blouses longues manches et des chaussures fermées parce que la manipulation de la soude de coquille, par exemple, elle est très dangereuse pour la peau. Nous avons déjà eu des accidents, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact direct avec la soude de coquille et ils ont été pratiquement brûlés. Et des brûlures très, très profondes, c'est-à-dire ils mettent généralement du temps pour se cicatriser. Donc, ces produits sont vraiment très, très dangereux. Et vous avez également l'utilisation du carbonate de soude. Mmh. L'inhalation de ce produit est très dangereuse pour la santé de nos poumons. Mmh. Donc, généralement, lorsque nous travaillons en laboratoire de fabrication, une fois par semaine, nous prenons du lait non sucré. C'est ça qui est généralement recommandé pour le nettoyage pulmonaire et la désintoxication. Donc, nous devons prendre du lait non sucré chaque fin de semaine, au moins une fois par semaine, je veux dire.
Et qui vous a donné cette recommandation de boire du lait parce que c'était un usage de grand-mère quand on disait quand on s'intoxiquait on buvait du lait, mais depuis les médecins ont dit que c'était absolument inefficace.
Mais ça, il suffit d'y croire quoi.
Qui vous a donné cette recommandation?
Recommandation du lait non sucré.
Oui.
Nous avons un personnel de santé également avec lequel nous travaillons.
Un médecin?
Oui, une dorée médecin avec qui nous travaillons et il a également recommandé cela, ses conseils. Je dirais que c'est même très efficace parce que lorsque vous prenez cela, il y a souvent des douleurs thoraciques que nous ressentons là. Et lorsqu'on prend du lait non sucré, on se sent beaucoup mieux.
Bon, bah en tout cas, on vous remercie pour votre témoignage, Donald. Très bonne journée au Cameroun, en tout cas, André Tchikolela. C'est vrai que les personnes qui travaillent directement au contact de ces produits, on l'a vu récemment, notamment dans le monde agricole, des gens qui utilisent des produits chimiques, ce sont, on va dire, les premières vigiles de la dangerosité de ces produits.
Tout à fait, il y a les risques professionnels. Dans ce cas précis, ces produits sont relativement faciles à gérer, puisqu'il faut effectivement aérer, il faut effectivement... On se protège avec des masques anti-poussière, par exemple, hein. Évidemment des gants. Ce qui est beaucoup plus difficile à gérer, c'est effectivement toutes ces substances qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, et donc j'ai du mal effectivement à concevoir un risque à partir de ça.
Il y a un élément important. On a parlé tout à l'heure des produits faits maison. Christelle Pangrazi, c'est le bon conditionnement à la maison aussi hein, pour éviter les accidents domestiques, parce que si ces produits chimiques ont des inconvénients d'être toxiques, ils ont souvent l'avantage d'avoir de bons bouchons ou alors des étiquettes bien faites, au moins pour la sécurité, pour certaines d'entre elles. En tout cas, non, pas forcément.
Non.
Pourtant, il y a eu des législations qui ont été faites pour les bouchons de sécurité, etc.
Ah oui, mais moi, je mets au défi quiconque aujourd'hui de savoir à quoi correspond un point d'exclamation sur une étiquette. Je mets au défi quiconque de savoir ce que signifie une croix. Enfin, aujourd'hui, nous, on estime justement que l'étiquetage est insuffisant et très largement insuffisant pour le consommateur. Vous le disiez tout à l'heure, la liste des ingrédients est écrite en caractère 12, caractère 12, caractère 8.
Oui, mais là, je parle par exemple des produits faits maison. Oui. On l'a souvent avec les témoignages de nos auditeurs, notamment en Afrique, qui mettent dans des bouteilles, des bouteilles d'usage courant, notamment de la soude caustique, avec des sténoses caustiques chez les enfants, qui créent des dizaines de milliers de drames en Afrique. Donc, c'est pour ça que je le dis bien et je le souligne. Même si c'est pas parfait, ces bouteilles sont plus reconnaissables que des bouteilles d'usage courant dans l'usage domestique.
Effectivement, elles ont ce mérite-là que de le mettre dans une bouteille d'eau minérale mal fermée. Donc oui, effectivement, ça a cet avantage.
Alors, vous le dites dans vos travaux, André Chicolella, il y a des produits, on l'a compris, qui sont directement corrosifs, qui sont directement toxiques. Et puis, il y en a d'autres pour... finalement, la quantité ni la concentration ne comptent vraiment. Ce sont tous ces produits insidieux.
Tout à fait. C'est ce qui est difficile à comprendre. Le sentiment que plus le risque va être d'autant plus élevé que le produit, la concentration est importante. Or, c'est faux. On montre effectivement, c'est la particularité de ces substances qui agissent sur le système hormonal. Ils vont agir à très faible dose. Ils vont agir aussi en effet cocktail. Et donc on a des effets cocktails, la famille des phtalates réagit en bande, si on peut dire. Et donc c'est pour ça que la seule façon de gérer ce problème, c'est de les éliminer au maximum en amont, au niveau des fabricants.
Législation, information, sensibilisation. Christelle Pangrazi, vous voulez réagir?
En fait, oui, c'est pas la dose qui fait le poison sur ces produits-là, c'est le poison lui-même qui suffit à... Voilà, donc c'est pas la dose.
C'est la période qui fait le poison.
Ouais.
Est-ce tout à l'heure vous disiez difficulté de s'y retrouver sur les étiquettes? Il y a quand même des éléments pour essayer d'avancer. On pense bien sûr au label. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce point de vue-là justement pour améliorer l'information?
Alors nous, on a fait une demande officielle au gouvernement, au ministère de la Santé, ministère de l'Environnement, en fait, parce qu'il y a aussi un problème de conditionnement. Tout à l'heure, on parlait du plastique, mais évidemment, tous ces produits ménagers se retrouvent dans des bouteilles en plastique. Les étiquettes sont illisibles, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et puis surtout, incompréhensibles pour le commun des mortels. Vous voyez isothiazolinone, vous voyez butylphényl, propionyl, ammonium quaternaire, CDDA. Qui peut le déchiffrer aujourd'hui? Donc nous on a fait une demande officielle qui s'appelle le Ménage Score, et on a demandé qu'à l'instar du Nutri-Score, on ait un système de notation,
une visibilité
qu'à l'instar du Nutri-Score, on ait un système qui aille de A à E, et que en fait quand le consommateur verra que son Carolin finalement, il est noté E, il aura peut-être pas le même geste, ou que son Ajax qu'il a l'habitude de prendre, c'est un D parce qu'il y a énormément de toxiques. En fait, la notation dépendrait du nombre de toxiques, mais aussi de son impact sur l'environnement. Et donc, je pense que les gestes des consommateurs, une fois que ces changements, cette nouvelle notation aura lieu, ne seront plus les mêmes.
Et l'écho que vous en avez reçu, pour l'instant, c'est au rang de proposition. Vous avez déjà eu une réponse?
Aujourd'hui, c'est une proposition qu'on a faite. Nous avons mis Serge Herzberg, avant de lancer le Nutri-Score, en fait, ça a été très long, un processus très long. Nous, comme lui, on a lancé une pétition. Aujourd'hui, on incite tout le monde à signer cette pétition qu'on a mis en ligne sur change.org, qui s'appelle Ménage Score. Et on espère que les citoyens la signature des citoyens permettra de faire pression sur le gouvernement et sur les industriels pour que ce système se mette réellement en place.
Pour une meilleure information.
Parce qu'effectivement, le lobby des industriels est aujourd'hui très très fort là-dessus. Ils veulent évidemment pas changer leur composition parce que ça leur coûte des sous. Et ils estiment que tout va très bien dans le meilleur des mondes. Donc
on va tout de suite partir pour voir comment ça se passe en Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Béatrice Sangaré-Tigori, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes pharmacienne toxicologue, professeure de toxicologie à l'université d'Abidjan. Alors pour commencer, bien sûr, parce que c'est pas toujours simple avec les noms de certains produits, est-ce que vous pouvez nous expliquer, professeur Sangaré-Tigori, votre domaine de travail, sur quel type de substance est-ce que vous travaillez?
En tant qu'enseignante, on parcourt un peu la discipline et la toxicologie est assez vaste. Mais un des chapitres les plus importants chez nous, c'est les insecticides, les produits pesticides. Et la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. Donc, ce chapitre nous tient à cœur. Et ces pesticides sont très répandus dans le pays. Il y a un usage massif qui est fait, mais nous sommes un peu gênés parce que très souvent, les utilisateurs n'ont pas les informations qu'il faut pour assurer leur protection. Et puis pour l'usage rationnel, de sorte aussi à protéger l'environnement et les produits de leur travail.
Alors, si on s'arrête maintenant sur un autre domaine sur lequel vous travaillez également, il s'agit celui des cosmétiques, professeur Béatrice Sangaré-Tigori. Quelles substances, selon vous, sont particulièrement dangereuses?
Pour les cosmétiques, les substances qui sont particulièrement dangereuses, il y a ces perturbateurs endocriniens dont vous avez parlé tantôt, mais il y a également des éléments qui viennent pour aider une certaine population à blanchir sa peau. Mmh. Je cite en l'occurrence l'hydrocortisone, l'hydroquinone qui gagne du terrain et qui nous pose un réel problème de santé publique.
On la retrouve dans les crèmes justement pour dépigmenter la peau. Quelles conséquences en termes de santé, professeur?
Les conséquences sont très nombreuses. Les conséquences sont d'ordre déjà esthétique sur le plan physique. La peau qui a subi la dépigmentation volontaire va présenter des anomalies comme des dyschromies. Ce sont des modifications de la coloration de la peau. Elle n'est plus tout à fait uniforme. Le teint recherché, il est là ou pas, mais en tout cas, la peau n'est plus tout à fait uniforme. Il y a une hyperpigmentation relative. Il y a également une forme de photosensibilisation. Et des dermatites de contact peuvent apparaître. Elles se présentent sous forme de brûlures ou de démangeaisons ou d'éruptions cutanées. Et puis, ces personnes qui s'adonnent à la dépigmentation avec ces produits comme l'hydroquinone souffrent beaucoup d'acné. Il y a aussi une atrophie cutanée qui est très, très, très importante. Et elle est responsable de la fragilité anormale de la peau. Et cela peut avoir des conséquences qui vont s'exprimer lors de traumatismes minimes ou, par exemple, il y a un retard à la cicatrisation ou des complications de cicatrisation si jamais cette personne devait subir une intervention chirurgicale.
Alors, des taches, réactions, boutons, infections, est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore plus vulnérables à ces produits chimiques, professeur Sangaré, notamment en raison d'antécédents médicaux?
Oui, il y a... Par exemple, ces produits ne vont pas seulement entraîner des effets visibles sur la peau. Il y a également des complications systémiques, telles que l'hypertension artérielle, le diabète et l'insuffisance rénale. Donc, les sujets qui ont ces antécédents dans leur famille devraient faire attention.
Et est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, professeur, le grand public est sensibilisé à ces questions? Est-ce qu'il y a une législation en Côte d'Ivoire qui permet de protéger les consommateurs?
La législation, elle existe. Mais comment est-ce qu'on l'applique? J'avoue que moi-même, je ne connais pas cette voie. Nous essayons de donner des conseils comme on peut à nos étudiants et aux personnes qui nous écoutent. Mais, par exemple, l'hydroquinone est limité à moins de 2% pour que l'utilisateur ou l'utilisatrice n'aille pas vers des dégâts trop importants. Mais les produits qui circulent contiennent beaucoup plus que 2%. Mmh. Et de par ma position, je n'ai aucun moyen d'empêcher ces gens-là de les commercialiser. Tout ce qui nous reste, c'est la sensibilisation.
Et justement, comment optimiser, comment améliorer cette sensibilisation? Ce sera ma dernière question.
Comment améliorer cette sensibilisation? Nous comptons vraiment sur des espaces ouverts comme le vôtre. Et nous comptons aussi sur des associations de consommateurs qui, pour le moment, semblent avoir d'autres préoccupations. Mais la cible que nous visons actuellement, ce sont nos étudiants, en espérant qu'ils vont relayer le message.
Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, professeur Béatrice Sangaré-Tigori. Je rappelle que vous êtes pharmacienne toxicologue et prof de toxicologie à l'Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Une question qui concerne tout le monde, des problématiques propres à certaines régions, Christelle Pangrazi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de vraies attentes, non seulement du côté de la réglementation, mais aussi de l'information. Parce que des fois, les lois sont là, bien simplement elles ne sont pas respectées, ou les gens continuent d'avoir des pratiques à risque.
Oui, en effet, mais après, je pense que c'est une question de ce qu'on disait tout à l'heure à propos des étiquettes, quoi. C'est une question d'information et de décryptage de l'information. Notre rôle et notre mission à nous, aux 60 millions de consommateurs, c'est effectivement d'essayer de décrypter tout ça pour le grand public et de leur donner les clés pour mieux consommer, mieux acheter, et c'est de faire aussi pression sur les industriels aujourd'hui pour que les pratiques, leurs pratiques et leur façon de concevoir les produits changent et qu'on aille aujourd'hui sur des produits qui sont vertueux, mais faire des produits vertueux, ça veut dire intégrer des substances plus nobles dans les produits, des ingrédients plus nobles dans les produits, et que ces ingrédients aient moins d'impact sur notre santé, sur notre santé pulmonaire, notre santé, notre derme, enfin tout, notre système aussi. Immunitaire.
Et la santé reproductive, ce qu'on voit vraiment avec les perturbateurs endocriniens.
On a des données aujourd'hui qui sont très inquiétantes au niveau mondial. C'est pas simplement les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord sur une baisse de la fertilité, notamment la baisse de la qualité du sperme dans le monde. Dans le monde, on a perdu 50% au cours des 50 dernières années. Donc et ça ne peut pas s'expliquer autrement que par l'action des perturbateurs endocriniens.
Vous l'avez tout à l'heure évoqué avec ces villes qui s'engagent avant, on va dire, que le pays ou que la nation ne s'engage. C'est vraiment un rôle moteur au niveau au local qui peut s'opérer avec des actions de terrain, justement avant que les textes ne changent au niveau national et pour le cas de l'Europe au niveau européen.
Tout à fait. On peut attendre effectivement que la réglementation à Bruxelles, mais ça avance à un rythme extrêmement lent parce qu'il y a beaucoup de blocages. Donc le mieux, c'est effectivement quand une ville comme Paris demande à ses fournisseurs de produits d'entretien des produits sans alkylphénol, grande famille de contaminants, eh bien, c'est tout à fait possible partout ailleurs d'utiliser ces mêmes produits et on a résolu, on élimine un contaminant majeur de notre environnement et notamment de l'eau, puisque les produits de nettoyage se retrouvent dans l'eau, donc ça contamine aussi l'écosystème. Vous voyez, il y a un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place et aujourd'hui la région Île-de-France a signé, la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine, des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Strasbourg, tout ça est en train de
bouger. Est vraiment dans le mouvement, parce que vous le disiez en début d'émission, ça fait une trentaine d'années qu'on est vraiment alerté sur cette question, et les choses sont simplement en train de se faire, puisque pour y voir plus clair, par exemple, André Ciccolella, on attend une liste officielle de ces perturbateurs que doit publier l'Agence de Sécurité Sanitaire. Alors c'est pour quand ?
En 2021.
Donc il faut attendre
on
encore.
On la connaît, la connaît, je voulais. Il y a plusieurs listes, il y a un peu trois niveaux de ce qui est avéré, supposé et suspecté, voilà. Donc on sait que les grandes familles, celles qui sont encore produites à des millions de tonnes au niveau mondial, les phtalates, le bisphénol, les perfluorés, ça on connaît. Donc il faut les éliminer tout de suite et l'action des villes est importante, l'action des régions. Et vous voyez, votre interlocutrice qui est à Abidjan, je me dis, mais il faudrait qu'Abidjan signe la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens.
Il doit y avoir certainement des coopérations nord-sud.
Ça, c'est formidable.
Oui, Christelle Pangrassi.
En fait, l'action des villes, des régions, mais aussi notre action personnelle, choisir aussi, alors je devrais pas dire ça comme ça, mais on peut choisir aussi de ne pas acheter et de boycotter.
Mais parce que ce qu'on a dit tout à l'heure avec ces produits maison, c'est pas du tout un niveau économique qui va le décider, puisque ces produits sont beaucoup moins chers que les trois quarts qui sont vendus dans le commerce.
C'est juste prendre un peu de temps et faire des choix, et bien souvent ces choix vont avoir un impact non seulement écologique meilleur, mais aussi un impact pour notre santé meilleur. En fait, les deux sont liés. Donc, c'est juste des choix. C'est juste, on fait aussi le choix de d'y consacrer un tout petit peu plus de temps et voilà.
André Ciccolella.
J'évoquais les sols en PVC. Voilà, ça c'est une décision qui est du ressort des architectes, effectivement, et des contraintes qui sont passées avec les communautés, les collectivités locales. Voilà, les crèches, c'est aberrant dans une crèche d'avoir un sol en PVC. On sait faire des sols en caoutchouc naturel, notamment. Et donc on peut éliminer une source majeure de contamination. Et là, c'est le rôle des collectivités locales.
Et justement, ce sera ma dernière question, par rapport à ce qu'on désignait tout à l'heure comme population particulièrement vulnérable, même si on l'a compris, ça s'étend à beaucoup, beaucoup de monde, ces populations vulnérables. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une information qui est à la hauteur de l'enjeu sanitaire ?
Absolument pas. Nous demandons effectivement, vous voyez, que dans la consultation préconceptionnelle, c'est le moment où il faudrait informer les couples qui ont un projet d'enfant, de dire... de connaître effectivement quel est le degré de contamination. Quand je citais l'opération zéro phtalate, couper les cheveux, analyser les phtalates dans les cheveux, ça peut très bien faire l'objet d'une première analyse dans les couples, parce que là, une femme enceinte aujourd'hui contaminée au niveau les plus élevés, c'est un risque certain. Alors actuellement, tout ce qu'on recherche, c'est la toxoplasmose, le sida, c'est très bien. Mais on est dans une vision des choses qui... on est en 1945, quoi, le risque infectieux. Aujourd'hui, on sait que le risque infectieux existe, mais le risque non infectieux existe aussi, et il faut s'en préoccuper beaucoup plus sérieusement. On a un décalage à ce niveau-là.
On vous remercie tous les deux d'avoir participé à Priorité Santé. Merci à vous, Christelle Pangrazi, rédactrice en chef adjointe des hors-séries du magazine 60 millions de consommateurs, et à vous, André Tchicolella, chimiste toxicologue, président du réseau Environnement Santé. L'activité physique et la santé, c'est tout de suite avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Docteur Sen, vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Vous nous parlez aujourd'hui d'une pathologie fréquente dans la pratique d'une activité sportive. Il s'agit de l'apparition de plaies, hein, de blessures, suite très souvent à des chutes, des contacts violents. Alors, quels sont les problèmes que tout cela peut engendrer?
Alors oui, une plaie, c'est une rupture de la couche superficielle ou profonde de la peau. Alors, généralement, ça entraîne des douleurs ou des saignements. Et l'importance du saignement, en fait, dépend souvent, d'ailleurs, de la profondeur de la plaie et puis de sa localisation, hein. Il faut savoir, par exemple, que le cuir chevelu ou l'arcade sourcilière saigne beaucoup. Alors, outre le saignement qui peut être impressionnant et souvent qui n'est pas très grave, l'objectif principal du traitement de cette plaie, c'est de contrôler le risque d'infection bactérienne et puis surtout de prévenir l'apparition d'un tétanos.
Et comme en cas d'accident, quels sont les premiers gestes à faire?
Il faut se laver les mains. Hein, avant de toucher toute plaie, il faut absolument se laver les mains. Laver la plaie aussi. Alors, ça peut être à l'eau claire ou à l'eau savonneuse pendant 4-5 minutes. Et puis après rinçage, on nettoiera la plaie avec un désinfectant comme la chlorhexidine. Il ne faut pas hésiter après à comprimer la plaie avec une compresse propre, stérile, pour arrêter l'hémorragie. Et là, deux situations. Ou bien la plaie n'est pas profonde et elle peut être complètement recouverte et protégée avec un pansement et puis on applique un peu de glace autour pour éviter le gonflement. Ou bien la plaie est profonde et à ce moment-là, il faudra qu'elle soit suturée par le médecin. Et en attendant, eh bien on comprime la plaie avec des compresses et un pansement jusqu'à la pose des points de suture.
Et docteur Sen, est-ce qu'il y a par contre des gestes à éviter?
Déjà, quand on nettoie la plaie, il faut éviter d'aller de l'extérieur vers l'intérieur parce que sinon on ramène évidemment les bactéries sur la plaie. Il faut éviter de nettoyer avec des cotons parce que ça laisse plein de fibres à l'intérieur, c'est pas très bien. L'alcool à 90, c'est pas très terrible non plus parce que ça fait saigner au contraire une plaie. Et puis les crèmes antiseptiques en pansement occlusif, il faut absolument éviter parce que ça va favoriser la macération. Et puis enfin, il faut éviter de mélanger les antiseptiques parce que ça peut donner certaines réactions quelquefois dangereuses.
Et peut-être un dernier conseil?
Alors, il faut vérifier la vaccination antitétanique. Ça, c'est absolument essentiel. C'est trop dommage aujourd'hui, en 2019, de mourir d'un tétanos à cause d'une plaie, pour reprendre, pour les activités qui n'ont pas de contact, comme la course à pied, le vélo, on peut reprendre quasiment immédiatement. Le tout, c'est d'avoir un pansement qui tienne bien. Si c'est un sport de contact ou de combat, là, il faut attendre le retrait du pansement ou des fils pour reprendre. Généralement, c'est après le 8e jour. Et puis, pour toutes les activités aquatiques, il faudra vraiment les suspendre jusqu'à une cicatrisation complète. Donc, Caroline, j'espère que désormais, nos chers auditeurs penseront aussi bien à ses conseils que leur plaît.
Bon, ben voilà le jeu de mots de la fin, comme toutes les semaines. Merci, docteur Sen, et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, et on vous retrouve dans Priorité Santé. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise cette émission. Juliette Bro, Ophélie Lassen, Héloïse Bajou, Didier Bleu. On se retrouve demain dès 9h10 temps universel.
RCT Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Bonjour.